VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, Eric Manilakiza en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue à tous dans cette édition dont voici d'abord le sommaire. Le Mali demande le retrait sans délai de la mission de l'ONU.
Le gouvernement du Mali demande le retrait sans délai de la MINUSMA. Cependant, le gouvernement est disposé à coopérer avec les Nations Unies dans cette perspective.
Les Maliens sont appelés aux urnes dimanche pour décider de l'avenir de leur constitution. Une délégation de dirigeants africains à Kiev pour tenter une médiation entre Ukrainiens et Russes. L'ONU veut des mesures urgentes et décisives pour éviter de nouveaux naufrages de migrants. Visite très attendue ce week-end en Chine du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Sa mission, rétablir le dialogue avec Pékin. Dans 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Le ministre malien des Affaires étrangères a demandé ce vendredi devant le Conseil de sécurité de l'ONU le retrait sans délai de la mission des Nations Unies dans son pays, dont il a dénoncé l'échec pour répondre aux défis sécuritaires. Le réalisme impose le constat de l'échec de la MINUSMA dont le mandat ne répond pas aux défis sécuritaires, a déclaré Abdoulaye Diop devant les membres du Conseil qui doivent se prononcer le 29 juin. Sur un renouvellement du mandat de la mission de maintien de la paix qui expire le 30 juin. Toujours au Mali, le projet soumis à un référendum consolide fortement la stature présidentielle. Les Maliens se rendent aux urnes dimanche pour se prononcer sur leur prochaine constitution à l'appel du mouvement de soutien à l'association des imams du Mali. Plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées au palais de la culture Amadou Ampateba de Bamako pour mobiliser les Maliens en faveur du non lors du référendum de dimanche. Le reportage de Mohamed Danyoko.
Si les camps du oui multiplient les manifestations depuis le début de la campagne pour le référendum le 2 janvier dernier, le camp d'en face, celui du non, ne compte pas se laisser faire. Ce vendredi, il a fait valoir ses arguments pour lesquels il appelle à voter non le dimanche. Djigba Keïta du PPR, membre du Front uni contre le référendum.
Nous avons dit non parce que l'initiative est illégale de bout en bout. C'est en violation de la constitution du Mali que le président de la transition a pris les décrets pour installer une commission d'élaboration de la constitution, pour nommer des membres de cette commission, pour nommer des gens membres d'une commission de finalisation de la constitution. Tout est fait en violation de la constitution qu'on vise chaque fois. Vu la constitution de 1992, je décrète. C'est illégal donc de bout en bout. Ça fait que tout ce qui a été décidé du début à la fin est illégal et anticonstitutionnel.
Initiative du mouvement de soutien aux imams du Mali, ce rassemblement vise surtout à contester la notion de laïcité contenue dans la nouvelle constitution. Une conviction partagée par certains hommes politiques. Mamadou Traoré, président du parti Union en Kambolo-Dignogoma.
La laïcité, elle dit du moins qu'il n'est pas possible pour un citoyen de parler de religion dans les sphères de l'État. Donc là, c'est pour nous, ça c'est contre l'islam. Et nous sommes un pays à forte densité musulmane, 98% à peu près. Donc nous devons aller vers quelque chose qui va prendre en charge les préoccupations de toutes et de tous.
Si l'impression générale qui se dégage fait croire que les Maliens sont majoritairement favorables à la nouvelle constitution, il s'agit en réalité, selon Djigba Keïta du PPR, du Front uni contre le référendum, d'une peur d'exprimer son opinion.
À cause de la pression politique sur les opposants, à cause du fait qu'on n'a pas la liberté d'expression, pour éviter d'aller sous les cagoules ou bien en prison ou en exil, les gens se taisent. À cause de tout cela, on voit une ferveur, une effervescence comme si tout le monde est pour le oui. Non, si ça se faisait démocratiquement, si on était aussi un pays démocratique comme en 2017, il y aurait beaucoup plus de non dans la rue que de oui.
Le référendum est prévu dimanche. Les militaires ont quant à eux voté le 11 juin dernier. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Plus d'un million d'enfants ont été contraints de fuir les combats meurtriers entre l'armée et les paramilitaires au Soudan. L'UNICEF évoque un cauchemar pour ces mineurs piégés par le conflit. D'après l'UNICEF, plus de 13,6 millions d'enfants ont besoin d'aide humanitaire au Soudan. Parmi eux, 620 000 souffrent de malnutrition aiguë et la moitié pourrait mourir s'ils ne sont pas aidés à temps, a prévenu l'organisation. Une délégation de dirigeants africains a entamé une mission de paix à Kiev ce vendredi sans se laisser décourager par ce que l'Ukraine a qualifié de volée de missiles russes destinés à les accueillir dans la capitale. Elle a appelé à la désescalade entre l'Ukraine et la Russie. Alexandrine Holognon pour les détails.
La délégation composée des dirigeants d'Afrique du Sud, du Sénégal, de Zambie, des Comores et d'Égypte a rencontré des représentants du ministère ukrainien de la Défense avant de s'entretenir avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue ukrainien, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a appelé l'Ukraine et la Russie à la désescalade. Aujourd'hui, alors que nous étions ici, nous avons entendu parler de frappes de missiles et ces types d'hostilités ne sont pas bons pour favoriser la paix, a encore ajouté Cyril Ramaphosa. La mission africaine a commencé son voyage en Ukraine par une visite à Boutcha, ville près de Kiev, qui a été le théâtre d'un massacre de centaines de civils imputés à l'armée russe. Les dirigeants africains doivent rencontrer le président russe Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg demain. Et dans la mesure où Kiev et Moscou courtisent les pays du Sud, ils y voient une chance de jouer un rôle de médiateur dans une guerre qui a frappé les pays africains en perturbant l'approvisionnement en céréales et autres denrées alimentaires.
L'ONU a demandé des investigations rapides et des mesures urgentes et décisives pour éviter de nouveaux drames comme le naufrage mercredi d'un bateau chargé de migrants au large de la Grèce. Naufrage qui pourrait avoir coûté la vie à des centaines de personnes. Mohamedou Oumfa.
Il doit avoir une enquête approfondie sur les événements qui se sont déroulés au cours de cette tragédie et j'espère que nous pourrons trouver des réponses et apprendre de l'expérience, a souligné Jérémy Laurence, porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme dans un communiqué conjoint du HCR et de l'Organisation internationale pour les migrations. Ce qui s'est passé mercredi souligne la nécessité d'enquêter sur les passeurs et les trafiquants d'êtres humains et de veiller à ce qu'ils soient traduits en justice, a-t-il ajouté. Il est clair que l'approche actuelle de la Méditerranée ne fonctionne pas. Année après année, elle continue d'être la route migratoire la plus dangereuse au monde, avec le taux de mortalité le plus élevé, a pour sa part déclaré Frédéric Osoda, directeur pour le département des urgences de l'OIM. Les États doivent se mettre d'accord pour rassembler et combler les lacunes en matière de recherche et de sauvetage, mais aussi de débarquement rapide et de la mise en œuvre des voies migratoires régulières et sûres, a-t-il ajouté. 78 corps ont jusqu'ici été retrouvés selon les gardes-côtes grecs et 104 personnes ont pu être secourues à temps. Selon les rescapés, il y avait environ 750 personnes à bord.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain Antony Blinken se rend ce dimanche à Pékin, la première visite en Chine d'un haut diplomate des États-Unis depuis près de 5 ans, sur fond de relations bilatérales tendues, n'est-ce pas, Jacques Aristide?
Les points de friction sont nombreux entre Pékin et Washington, allant de Taïwan aux droits humains. Pour les États-Unis, il s'agit avant tout de rétablir des lignes de communication directe avec la Chine et de gérer les tensions afin d'éviter une confrontation accidentelle après des turbulences depuis l'incident du ballon en février dernier. Nous n'allons pas à Pékin avec l'intention d'y réaliser des percées ou une transformation, a dit Daniel Crittenbrink, le responsable Asie au département d'État. Pour Kurt Campbell, son homologue à la Maison-Blanche, le déplacement ne représente pas un tournant stratégique. Nous n'allons pas baisser la garde s'agissant de nos intérêts ou de nos valeurs ou ne pas chercher à tirer un avantage compétitif durable, a-t-il ajouté. Quant au ministère chinois des Affaires étrangères, il a accusé Washington d'être seul responsable des frictions entre les deux pays. À Pékin, le patron de la diplomatie américaine doit notamment s'entretenir avec son homologue Qin Gang. Pour l'heure, toutefois, pas encore de confirmation au sujet d'une rencontre entre Antony Blinken et le président Xi Jinping, qui pendant ce temps a reçu aujourd'hui même Bill Gates, l'ancien patron de Microsoft, décrit par le dirigeant chinois comme un vieil ami. Du reste, d'autres grands patrons américains tels qu'Elon Musk et Tim Cook, le directeur général d'Apple, font également le voyage à Pékin, semblant ignorer la guerre commerciale Chine-États-Unis.
Le président Emmanuel Macron a accueilli ce vendredi à l'Élysée le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, pour un déjeuner de travail où nombre de sujets devraient être abordés. L'objectif est de donner des perspectives bilatérales et étudier les grands dossiers du moment, qu'ils soient régionaux ou qu'il s'agisse de l'Ukraine. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco de Nathalie Barge.
Robex Ressources estime à 160 millions de dollars les travaux de construction de la future mine d'or Kiniéro en Guinée, qui pourrait livrer 850 000 onces sur une durée de vie de 9 ans et demi. Des travaux d'exploration ces derniers mois ont permis une hausse de 21% des réserves minérales du projet par rapport à la première étude, entraînant une amélioration de 46% de la durée de vie du projet. La Banque centrale du Nigeria a annoncé adopter un taux de change unifié et laisser fluctuer la monnaie nationale dans le cadre d'une réorganisation des politiques monétaires du nouveau président Bola Tinubu. La CBN a indiqué que le Naira sera désormais négocié au taux du marché au lieu d'être fixé par rapport au dollar américain et d'autres devises. Cette décision est intervenue quelques jours après l'arrestation de l'ancien directeur de la banque, Godwin Emefiele, visé par une enquête. En Angola, l'entreprise chinoise ZTE et Liralink Technologies ont signé un accord pour l'implantation d'une usine de téléphone mobile dans le pays qui devrait être opérationnelle l'année prochaine. Le partenariat a été conclu lors du Forum international angotique à Luanda cette semaine. L'objectif est de mettre sur le marché des smartphones à des prix abordables pour atteindre l'accès universel à l'Internet.
Sans transition, nous passons à votre page des sports. Ce soir, c'est avec Nanit Talani. Bonsoir Nanit.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
L'attaquant sénégalais Sadio Mané a fait savoir de façon définitive à son club, le Bayern Munich, qu'il sera présent à la reprise.
Oui, l'information vient d'être confirmée par le média allemand Bild de ce vendredi. Sadio Mané ne bougera pas. Afrique Sport rapporte que le lion de la Teranga, 31 ans, a assuré à ses dirigeants qu'il sera présent lors de la reprise le 13 juillet et qu'il n'a pas du tout l'intention de partir. Mais à son retour, après cette blessure au genou qu'il avait notamment privé de la Coupe du Monde au Qatar, Mané aura quand même du mal à retrouver le rythme. Et puis, le changement d'entraîneur ne devrait pas lui faciliter les choses.
Transfert en Angleterre, Chelsea a offert un nouveau contrat à Kanté alors que Bakayoko est libéré.
Le club anglais de Chelsea veut effectivement conserver son milieu français, N'Golo Kanté, né de parents maliens et courtisé notamment par l'Arabie Saoudite. C'est ce qu'indiquent les listes officielles des joueurs sous contrat publiées ce vendredi par la Premier League, alors que le contrat du champion du monde 2018 arrive à expiration le 30 juin. Mais son nom figure sur la liste des joueurs retenus par Chelsea pour la saison prochaine avec la mention « offre » entre parenthèses derrière son nom. Le joueur de 32 ans semblait pourtant en contact avancé avec le club saoudien d'Al-Ittihad, avec lequel il avait signé un pré-contrat pour 3 ans pour y rejoindre notamment Karim Benzema début juin, mais il était soumis à des examens médicaux. A l'inverse, un autre milieu français de Chelsea, Tiemoué Bakayoko, lui aussi arrivé en fin de contrat, ne sera pas retenu.
Enfin, un autre transfert chez Chelsea, l'Inter Milan fait sa première offre pour Kalidou Koulibaly.
Eh oui, après une seule saison en Angleterre, Kalidou Koulibaly s'apprête en effet à repartir en Italie, Chelsea n'ayant pas le capitaine du Sénégal dans ses plans. Le défenseur de 31 ans, qui a connu une saison on ne peut plus mitigée avec les Bleus, a été attiré par les plans de l'Inter Milan qui lui garantissent du temps de jeu, mais aussi la possibilité de disputer la Ligue des Champions. Quant au Nerazzurri qui devrait perdre Milan Skriniar face au Paris Saint-Germain la saison prochaine, ils ont besoin d'un défenseur central. À en croire nos confrères de Sport News Africa, l'Inter Milan a fait une offre de prêt avec option d'achat.
Page des sports signée Nanit Talani.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, de retour avec vous, Eric Manirakiza. Place au dossier du jour. Au Cameroun, il y a de l'aide dans le nord du pays. C'est un projet conjoint entre le gouvernement camerounais et la Banque mondiale. Le reportage d'Emmanuel Juntap.
Le projet Viva Benue envisage l'aménagement et la valorisation des investissements le long du fleuve éponyme. Ce projet va bénéficier directement à 26 000 agriculteurs et indirectement à environ 1 à 2 millions d'habitants sous risque d'inondation le long du fleuve Benue. Mahamat Habibou, coordonnateur du projet d'aménagement et de valorisation des investissements de la vallée de la Benue.
Viva Benue va utiliser l'eau de la retenue du lac de Lagdo en termes d'irrigation. Il y a un périmètre existant de 1000 hectares qui sera réhabilité, mais de part et d'autre de la rive, nous allons créer deux périmètres nouveaux d'une superficie chacun de 5000 hectares. La rive droite sera véritablement utilisée par les petits producteurs, tandis que la rive gauche, on va véritablement impliquer une partie des petits producteurs, mais essentiellement le secteur privé, pour faire de la promotion de la transformation locale du riz.
11 000 hectares de périmètre irrigué vont être aménagés pour la culture du riz afin de réduire l'importation du riz blanc au Cameroun. Le pays importe 600 000 tonnes par an en moyenne pour une valeur de 122,5 milliards de francs CFA. Joseph Bouba, membre de l'association des usagers de l'eau à Lacdo dans la région du Nord.
Tous les trois périmètres se retrouvent chaque trois jours auprès de ce champ semencier que le projet a mis sur pied pour nous édifier sur les techniques culturelles, sur la mise sur pied ou bien l'entretien de ces canaux d'irrigation, l'entretien de ces parcelles. Et les planteurs sont très, très fiers de cela.
Selon le plan directeur d'aménagement de la vallée de la Benue, il existe environ 17 000 hectares de terres arables non irrigables qui ne sont pas encore valorisés dans cette partie du pays. Adamou Youssoufa, président de l'ONG de l'eau à Gounougou, dans la région du Nord.
Nous avons les difficultés de gestion d'eau même, parce que tout ce qu'on avait depuis fort longtemps est maintenant gâté et sans eau on ne peut rien faire.
L'amélioration des infrastructures et de la gestion de l'eau est justement l'une des quatre composantes du projet. Mahamat Habibou, coordonnateur du projet d'aménagement et de valorisation des investissements de la vallée de la Benue.
La région du Nord, la région de l'extrême nord du Cameroun sont essentiellement des zones situées en zone soudano-sahélienne. Et la maîtrise de l'eau n'est pas également la chose donnée. Le gouvernement a opté de mettre en place ce projet qui viendra dans un premier temps valoriser la disponibilité en eau de la retenue d'eau du lac de Lagdo, parce que c'est à partir de cette eau-là que nous allons aménager les terres, mais également irriguer donc les plantations pour pouvoir permettre aux populations de produire plus.
Les investissements sont attendus au cours des 7 prochaines années en vue de protéger la population face à la crise économique et sociale qui touche cette partie du Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Chaque année, des centaines de milliers de tortues marines meurent, piégées dans les filets ou traquées par les braconniers, ce qui menace la survie de l'espèce. Et pourtant, elles sont utiles à l'environnement car elles nettoient les coraux et permettent à d'autres animaux d'y vivre. Elles jouent également un rôle essentiel dans la diversité de la nature sur tous les continents. Au Togo, une association communautaire milite à travers le projet Bellito pour la sauvegarde des tortues marines sur le littoral. C'est un reportage de notre correspondante Amène Assignon à Lomé.
Ils sont des volontaires engagés pour la propreté de la plage. Des maraîchers pour la plupart. Ce samedi, ils se sont encore mobilisés pour nettoyer cette partie du littoral togolais, un endroit où viennent souvent pondre des tortues marines.
Il y a beaucoup de déchets que la mer rejette, qui nuisent aux animaux marins, surtout les tortues qui peuvent en mourir. C'est pourquoi nous nettoyons la plage, pour les protéger.
« Cet espace spécialement aménagé accueille des tortues marines. Ici, il s'agit de l'espèce appelée olivâtre.
Ah, elle a 8 mois.
C'est l'association Air d'Afrique, dirigée par Maoli Moussounoupé, qui œuvre pour leur protection et la préservation de leur habitat, de jour comme de nuit. Il est 20h. La patrouille de nuit longe la plage à la recherche d'une tortue femelle. Mais à la place, elle a plutôt trouvé des œufs de tortue qui viennent d'éclore.
Les tortues femelles viennent pondre sur nos côtes, surtout les nuits. Ces tortues qui viennent pondre sont vulnérables. Surtout comme c'est des femelles, il faut qu'on les protège sur la côte. Les patrouilles que nous faisons, ça protège ces tortues contre les braconniers. Et les œufs également sont sécurisés.
Les tortues marines jouent un rôle important dans la chaîne de la biodiversité des fonds marins. D'où l'implication du ministère de l'Environnement dans la préservation de cette espèce marine sur les côtes togolaises.
C'est qu'ils protègent les récifs coralliens et favorisent la reproduction de certaines espèces de poissons et d'espèces marines.
Ce projet de protection des tortues marines dénommé Belito est initié par le canton de Bay à travers Air d'Afrique. L'association se veut communautaire, d'où l'implication du chef canton, grand activiste de l'environnement.
L'association est une association communautaire pour pouvoir impliquer toute la population à la préservation de la biodiversité.
Le Togo a ratifié plusieurs conventions internationales, notamment celle relative à la protection de la biodiversité, qui l'engage à préserver les ressources naturelles, tant de la faune, de la flore, que des fonds marins. Amena Sima pour VOA Afrique, Lomé.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Les ministres de la Défense de l'OTAN se sont réunis à Bruxelles ce vendredi 16 juin pour une deuxième journée de pourparlers à l'ordre du jour. Le sommet de Vilnius qui devrait discuter du soutien à l'Ukraine et des garanties de sécurité. Ils ont discuté de la meilleure manière de sécuriser l'Ukraine jusqu'à son entrée dans l'Alliance. Récit de Michel Claire-Joseph.
Les ministres de la Défense de l'OTAN ont eu d'intenses discussions sur le désir de l'Ukraine de rejoindre l'Alliance et les plans à long terme pour assurer la sécurité de ce pays après sa guerre contre la Russie. Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'Alliance.
Tout d'abord, tous les alliés conviennent que l'Ukraine deviendra membre de l'OTAN. Nous n'allons pas discuter d'une invitation au sommet de Vilnius, mais comment nous pouvons rapprocher l'Ukraine de l'OTAN? Et je suis convaincu que nous trouverons une bonne solution et un consensus lors du sommet de Vilnius sur la manière de rapprocher l'Ukraine de l'OTAN.
Pour Jens Stoltenberg, ce n'est plus qu'une question de formalité.
We all agree that Ukraine has already moved closer to NATO over the past decade.
Nous convenons tous que la porte de l'OTAN est ouverte et que l'Ukraine deviendra un membre de l'Alliance et qu'il s'agit d'une décision qui incombe aux alliés et à l'Ukraine. La Russie n'a pas de droit de veto. Nous ne savons pas quand cette guerre se terminera. Mais lorsque se terminera, nous devrons mettre en place un cadre qui garantisse à l'Ukraine sa sécurité future et nous assurer que l'histoire ne se répète pas.
Les membres de l'OTAN ont aussi évoqué l'établissement d'un nouveau conseil OTAN-Ukraine impliquant Kiev.
Nous travaillons également à l'établissement d'un nouveau conseil OTAN-Ukraine, où l'Ukraine sera égale aux alliés de l'OTAN, consultera et décidera des questions de sécurité et d'intérêt commun. Notre ambition est de tenir la première réunion du nouveau conseil à Vilnius avec le président Zelensky.
Le secrétaire général Jens Stoltenberg a dit s'attendre à ce que les dirigeants discutent aussi de l'augmentation de l'approvisionnement en munitions et d'un engagement à augmenter les dépenses de défense.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos,
et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Le département d'État américain a publié son rapport annuel sur la traite des êtres humains. Le document note, entre autres, une augmentation des escroqueries en ligne qui entraîne les gens dans le travail forcé. Les garçons et les jeunes sont confrontés à un risque accru d'être victimes de la retraite, de la traite. Reportage de Veronica Barderas Iglesias de la VOA, récit de Nani Tetlani.
Alors que la traite des êtres humains se propage dans le monde, plus de 27 millions de personnes sont privées d'autonomie sur leur propre vie et leurs actions. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken lors de la publication du rapport 2023 sur la traite des personnes.
The rise in labor trafficking using online scams.
Il y a une augmentation du trafic de main-d'œuvre utilisant des escroqueries en ligne qui ont proliféré à mesure que de plus en plus de monde a accès à l'Internet. La pandémie a amplifié cette tendance. Les trafiquants ont profité du chômage généralisé pour recruter des victimes avec de fausses offres d'emploi, puis les ont forcés à lancer des escroqueries internationales.
Anthony Blinken a également décrit les hommes victimes comme un segment négligé de la traite.
Pendant des années, il y a eu une croyance largement répandue mais erronée selon laquelle la traite touche exclusivement les victimes féminines. Cette fausse perception a eu des conséquences franchement dévastatrices et tangibles avec beaucoup moins de services de soutien alloués aux victimes de sexe masculin. La réalité est que toute personne, quel que soit son sexe, quelle que soit son identité de genre, peut être ciblée par des trafiquants d'êtres humains.
Lors d'une cérémonie à Washington, jeudi, plusieurs personnes ont été honorées pour leurs efforts dans la lutte contre la traite des êtres humains. Cindy Dyer, l'ambassadrice itinérante chargée de surveiller et de combattre la traite des personnes, a souligné l'engagement des États-Unis à mettre fin à cette pratique.
Nous réunissons régulièrement 20 agences pour examiner et affiner nos stratégies fédérales de lutte contre la traite. Nous intégrons les recommandations des survivants dans nos politiques et nos programmes.
R. Evonne Benson Idaosa était honorée lors de l'événement. C'est une défenseuse qui étudie et combat le trafic sexuel au Nigeria. Elle a appelé les leaders à faire plus.
Tous les dirigeants mondiaux qui ont le pouvoir de perturber le trafic, les défaillances systémiques des gouvernements nationaux et internationaux qui font passer les profits avant les personnes, les règles arbitraires avant la bonne conscience ne peuvent plus être tolérées.
Le rapport 2023 évalue les efforts de 188 pays et territoires pour lutter contre la traite des êtres humains.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manirakiza au micro, à la mise en onde, Lionel Runanilagahima. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.